nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, nous accueillons l'architecte et urbaniste Aymeric Zoublena, membre de l'Académie des Beaux-Arts, pour parler d'un thème intéressant qui est celui des stades. Et des stades qu'il a réalisés en France et à l'étranger avec son équipe. En effet, on dénombre pas moins de 7 stades achevés, parmi lesquels le Stade de France de Saint-Denis, le Stade du Hainaut à Valenciennes, le Stade Vélodrome de Marseille, le Stade du Havre, le Stade Olympique Atatürk d'Istanbul en Turquie, le Stade de la Coupe du Monde de Suwon en Corée du Sud, le Stade de Shizen en Chine et nous rajouterons le Stade d'Alexandrie en Égypte. Enfin, comme vous l'entendez, beaucoup de réalisations intéressantes et deux projets peut-être à venir. Bienvenue Monsieur Zoublena dans cette émission. Dans votre carrière, la réalisation de stades est plutôt importante. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vous aviez pensé un jour réaliser autant de stades dans votre carrière?
Bonjour. Non, puisque le premier stade que j'ai conçu, c'est le Stade de France. Le concours a eu lieu, je crois, en 1994. Je n'avais pas eu l'occasion de concevoir de stades ou de très grands équipements sportifs.
Vous n'avez pas été assommé par la tâche?
Si, parce que, si vous voulez, le cahier des charges était extrêmement précis, de faire, je dis de mémoire, 300 pages, et donc j'avais à assimiler un certain nombre d'informations que je ne connaissais pas, mais comme d'ailleurs la plupart des concurrents qui avaient été invités à participer à ce concours, puisque je crois qu'il y avait à peu près 17 projets qui ont été présentés à la première phase et simplement 7 à la seconde. Et parmi ces concurrents, architectes et ingénieurs, la plupart d'entre eux n'avaient pas conçu de stade.
Alors, comment s'est déroulé ce premier défi?
Bien, d'abord je préciserai que je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec Michel Macari, puis Réjambal et Constantini qui sont une autre agence. Eh bien, ça s'est déroulé de la façon suivante. Il y a eu donc analyse du dossier, esquisse. Ça se réalisait dans le cadre d'une... Ça ne s'appelait pas conception-construction, mais enfin c'est avec des entreprises. Donc l'entreprise suivait les propositions que nous faisions, les chiffrait et nous disait bah, « Écoutez, c'est bien, mais attention, là, il faut tenir... » C'est à la fois un projet dans sa valeur architecturale, fonctionnelle et également financière. Donc le concours s'est déroulé en deux étapes, en fait. Dans une première étape, il s'agissait de définir les grands objectifs urbanistiques, et j'en reviendrai, car le Stade de France est un stade qui était destiné à développer un quartier architectural et fonctionnel. Puis le jury se réunissait, sélectionnait, je crois que c'est donc 7 projets qu'il estimait intéressants de devoir développer. Et puis dans un second temps, il fallait affiner, préciser, surtout les dimensions architecturales, esthétiques, financières, la proposition, et puis le jury tranchait.
Un beau résultat. Alors le Stade de France, évidemment, ça fait rêver beaucoup de gens. Beaucoup de belles réalisations, comme je le soulignais en France. Le Stade du Hainaut, le Stade de Vélodrome de Marseille, le Stade du Havre. Et puis, il y a l'étranger. Vous partez dans des pays très différents, la Chine, l'Égypte, la Turquie. Comment se passe cette collaboration avec l'ailleurs?
Bien, c'est grâce au Stade de France que j'ai eu la possibilité d'être invité à participer à des concours. Dans l'ordre, si je ne crois pas me tromper, le premier, ça a été le stade de Suwon, qui est à quelques kilomètres de Séoul. Il y avait un certain nombre de stades qui ont été réalisés par la Corée du Sud pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde de 2002. Donc là, je crois que nous étions 3 ou 4 concurrents, dont un Américain de mémoire. Ben là, ça s'est passé de la même façon. Le stade est moins important, puisqu'il ne fait, si je puis dire, que 43 000 places, ce qui est déjà un gros stade. Et là, nous avons travaillé avec des équipes coréennes qui venaient périodiquement à Paris. Moi, je suis allé 4 fois à Séoul pour préciser le projet, rencontrer les dirigeants, le vice-président de Samsung, qui était le financier. Là, c'était un projet privé, car le stade était destiné, après la Coupe du Monde, à être mis à disposition des employés de la très grande société sud-coréenne Samsung. Donc voilà, ça s'est déroulé d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire on précisait les dispositions fonctionnelles architecturales. Il y avait quelquefois des bagarres avec nos collègues ingénieurs coréens parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur telle ou telle disposition. Enfin, une situation, je dirais, classique. À la langue près, parce que le coréen, je le connais mal.
On a du mal à imaginer la collaboration entre Français, Coréens ou Turcs, Égyptiens. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à vous entendre? Est-ce qu'il y a vraiment eu des difficultés, par exemple?
Oui, on s'entend bien parce que le sujet, je dirais, est connu, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, on n'était que jamais que le second stade. Mais enfin, lorsqu'il s'agit de problèmes techniques ou fonctionnels, il y a, je dirais, des réponses objectives. Enfin, si tant est qu'il y ait toujours... Il n'y a pas forcément une seule réponse à un problème donné. Là où ça devient plus délicat, c'est lorsque ce sont des choix esthétiques, c'est-à-dire à une réponse fonctionnelle. Il y a une réponse à une question fonctionnelle, une réponse fonctionnelle, mais qui peut s'exprimer dans une esthétique différente. On peut imaginer deux ou trois dispositions. Pour le stade de Suwon, ce qu'on avait proposé, c'était parce que l'équipe de Samsung s'appelle l'aile bleue. Donc j'avais dit, bah tiens, ça serait amusant de la couverture, d'essayer d'évoquer, il ne s'agit pas évidemment de faire une aile, enfin d'évoquer la notion d'envol. Sur le principe, d'ailleurs c'est probablement je pense ce qui m'a fait gagner, les Coréens étaient d'accord sur l'orientation générale, ils avaient vu une maquette. Mais ensuite, c'est la traduction technique de cette aile. Vous comprenez, quand vous dites, ben voilà, cette aile, moi je voudrais qu'elle soit plutôt réalisée en métal de telle ou telle disposition, là on commence à dire, mais ça pourrait être en béton aussi. Pourquoi pas, on affine, on regarde, on dit oui, en effet. Mais après quelques esquisses, on dit, ben non, je pense quand même que du métal, c'est mieux. Bon, là, ça n'a pas fait l'objet d'une discussion très longue. Mais après, quand on dit, ben cette aile, je voudrais qu'elle aille au-delà de la simple couverture des gradins, parce que je voudrais que son envol soit encore plus marquant, là, les Coréens, peut-être les financiers, vont dire, écoutez, c'est gentil, mais là, attendez, nous, on a aussi un budget. Vous voyez, c'est sur ces points-là. Mais je dirais à la limite qu'ils soient Coréens, Français, Anglais, Italien ou Tchèque, ce même problème peut se poser.
À l'étranger, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de ces projets, de ces travaux?
Alors, je n'ai pas suivi le chantier du stade de Suwon. C'était les Coréens. Il faut savoir que Samsung, comme je l'ai dit, est une énorme boîte à l'intérieur de laquelle il y avait un bureau d'études qui faisait 1000 personnes. Mon agence, au plus grand moment, faisait entre 80 et 100 personnes. C'est en commune mesure. Donc mon problème était de veiller à ce que le projet ne soit pas dénaturé. Dans l'ensemble, il n'a pas été. Alors pour répondre à votre question, d'abord la découverte du pays. Découverte Séoul, Istanbul, je l'avais déjà vu avant, mais je n'étais jamais allé à Séoul. Ce sont les contacts. C'est toujours le plaisir de voir les premiers bulldozers qui excavent le terrain. C'est voir la curiosité des gens qui découvrent qu'un chantier va s'ouvrir et ils ne savent pas ce que c'est, on leur explique. Voilà les images, et puis naturellement la culture et la raison. Quand je visitais les palais impériaux de Séoul, j'ai découvert que la plupart d'entre eux ont été reconstruits parce qu'ils avaient été brûlés par les Japonais. Donc je veux dire, c'est une image qui frappe. Istanbul, je connaissais depuis de nombreuses années, donc c'était différent.
Aujourd'hui, rétrospectivement, vous vous dites quoi quand vous remarquez votre stade en Corée, l'autre en Turquie? Vous devez être un peu fier de vous, non?
Oui. Tout simplement. Oui, je suis très content. Je suis très content. Oui, parce que ce sont des programmes enthousiasmants. Ils le sont tous par définition, mais programmes enthousiasmants. Et puis surtout, je le dis très souvent, je me répète, tout de même, concevoir et participer à la réalisation d'un lieu qui peut accueillir 80 000 personnes, c'est-à-dire une petite ville.
Extrêmement.
Une petite ville, une grosse bourgade. Je veux dire, c'est quand même
impressionnant.
Et puis que ces 80 000 spectateurs, ou même 40 000, c'est déjà pas mal, à un moment donné, vibrent tous à l'unisson parce que leur équipe a marqué un but, ça fait plaisir. Quoi.
D'autant plus que le stade peut bouleverser la société, en tout cas le lieu qui peut entourer le stade. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de l'impact ou du bouleversement que peut avoir un stade dans une société, qu'elle soit française pour le Stade de France ou même à l'étranger?
Je reviendrai tout à l'heure sur un aspect particulier, c'est l'évolution de la programmation des stades. Mais la question que vous me posez est d'ordre urbanistique. En effet, très souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais très souvent, les stades étaient construits à la périphérie des villes, dans des zones peu urbanisées, souvent d'ailleurs pour des questions de coût du terrain. Et puis c'était un bâtiment qui, les trois quarts du temps, enfin bon, j'exagère, mais enfin disons 4 à 5 jours par semaine, n'était pas utilisé. Maintenant, le stade est considéré comme un élément moteur d'une urbanisation. Soit qu'il s'installe dans des sites déjà urbanisés, soit qu'il est l'élément qui va déclencher la réalisation, l'apparition d'un quartier. Le Stade de France, comme je l'ai dit, celui de Suwon également. Istanbul, c'est un peu particulier car il est très à l'écart du centre urbain d'Istanbul. Mais Suwon a été conçu avec un projet d'urbanisme qui prévoyait que ce stade était au centre d'un quartier à venir. Quartier réunissant la totalité des fonctions urbaines, c'est-à-dire des bureaux, rarement des usines. Enfin, des bureaux, des logements, des équipements commerciaux, des équipements de services. Et je prends l'exemple du Stade de France parce que ça s'est réalisé. Il suffit de prendre le RER, on y va, on le voit, ou l'autoroute. Dans l'année qui a suivi l'ouverture du stade, il a commencé à se construire des logements, des bureaux, et maintenant le quartier, je crois, pour l'essentiel, est terminé. C'est vrai pour Suwon, là j'y suis pas retourné, mais il y a des constructions de logements qui sont faites tout autour. Istanbul, c'est différent. Istanbul faisait partie d'un complexe sportif. Il est loin, il n'était pas très bien desservi au moment de son ouverture, je ne sais pas si. Mais il y avait déjà, disons à 2-3 kilomètres du stade, toute une série de ce qu'on appellerait ici des ZUP qui s'étaient développées, disons. Alors on peut imaginer qu'un jour elles se rapprocheront du stade. Valenciennes et Le Havre sont destinées. Alors Valenciennes c'est un peu différent parce qu'il y a déjà un quartier qui existe. Mais Le Havre, il y aura des quartiers qui se développeront tout autour. Marseille, le stade de Marseille, stade Vélodrome qui remonte aux années 20-30, est en ville. Il est en ville. Et non seulement il est en ville, mais dans le programme du stade, il est prévu à côté des logements, un hôtel, des bureaux et un centre commercial. C'est-à-dire c'est une évolution fondamentale du rôle du stade dans la ville.
Des conséquences très immédiates sur la société. Également, au sein même des stades, pourriez-vous nous dire un mot sur cette évolution qu'on trouve à l'intérieur même du stade et de la configuration et de la programmation du stade ?
Oui, en effet. Alors, le stade, à l'origine, c'est le sport, voilà. C'est viril, ce sont les hommes.
C'est ce qu'on se
général,
dit.
En général, enfin, je ne dis pas qu'il n'y ait pas jamais eu de femmes qui assistaient à des matchs. Mais enfin, d'abord, c'était un lieu destiné essentiellement à accueillir des événements sportifs. Là, depuis, je dirais, un peu avant le Stade de France, cette évolution, cette destination a évolué de façon considérable, puisque c'est maintenant un lieu où il se passe des événements, des spectacles, qui sont naturellement du sport, mais autre chose. Il peut y avoir des concerts, des manifestations qui ont à voir de près ou de loin avec le sport ou pas. C'est donc un lieu dont la conception doit être dès l'origine faite pour pouvoir accueillir tout autre type d'événement. Des congrès. Il y a des congrès qui peuvent se dérouler à l'intérieur de cette enceinte. Et également, à partir de cette conception nouvelle, un public différent. C'est-à-dire maintenant, la famille, pour parler simple. C'est-à-dire le père, la mère, les enfants vont au stade, assistent aux spectacles sportifs, mais aux autres spectacles.
Véritable lieu de vie.
C'est un véritable lieu de vie. Ce qui fait que la conception, je dirais, de confort, la dimension de confort, la dimension de sécurité est très importante, puisqu'on y accueille des enfants, des femmes, etc. De confort, c'est-à-dire que tous les services qui accompagnaient avant le stade et qui, en gros, je schématise, se limitaient aux vestiaires, à quelques buvettes, ça a évolué. Maintenant, il y a des salons, les salons grand public, les salons VIP, des loges pour pouvoir y accueillir dans de bonnes conditions les clients ou les gens qu'on veut honorer.
Ou des artistes.
Ou des artistes.
Ou les sportifs.
voilà, tous les services, des commerces, un ou des restaurants, non plus simplement des buvettes. Voilà, c'est donc un lieu de spectacle. Et ça va même plus loin, puisque un certain nombre de salles peuvent être couvertes. C'est-à-dire l'espace de pelouse, l'aire de jeu peut être couverte. Je n'en ai pas réalisé. Il se trouve que, en tout cas, je n'ai pas gagné de concours dans lequel le programme prévoyait que la pelouse devait être couverte.
Est-ce que vous pensez que les choses vont encore se transformer dans l'avenir ? Parce qu'il y a eu de sacrés changements dernièrement. Est-ce qu'on peut imaginer encore ?
Alors, il y a un élément, je ne réponds pas directement à votre question, mais il y a un élément dont je n'ai pas parlé, c'est que sur la notion de stade destiné au sport, on distingue maintenant nettement entre les stades qui sont destinés à accueillir des jeux de ballon, football, rugby et l'athlétisme. Simplement pour des questions de confort et de proximité des joueurs et du public. C'est la notion de chaudron. C'est pour ça qu'on ne fait plus, peut-être qu'en France on en a fait récemment, mais je ne crois pas en tout cas, de stades sur lesquels il y a l'aire de jeu football, rugby et les pistes d'athlétisme. Au Stade de France, ça y était, mais les pistes d'athlétisme sont recouvertes par les gradins qu'on peut bouger. Donc on met les spectateurs dans des conditions équivalentes aux stades anglais qui sont pour la plupart conçus essentiellement pour le football et le rugby, ou pour l'athlétisme. Maintenant, sur votre question, écoutez, il y a eu un tel saut conceptuel que je ne vois pas dans l'immédiat ce qui peut évoluer. Alors si, et d'ailleurs c'est le cas, je crois, du stade de Wembley, l'idée qu'on puisse faire des stades évolutifs. Autrement dit, par exemple, pour accueillir des événements exceptionnels, comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, il faut des stades à grande capacité, 60 000 à 80 000 personnes. On peut se dire que dans des matchs, disons, qui n'ont pas un retentissement aussi international, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir 80 000 spectateurs. Donc on pourrait imaginer, et ça se fait en Angleterre, qu'on démonte une partie des gradins. Autrement dit, pour la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, on fait 80 000 spectateurs et puis on ramène le stade à 60 000 ou 40 000. Ça, c'est une évolution possible. La couverture de la pelouse peut aussi se développer, bien que ça soit coûteux. Pourquoi ? Pour pouvoir accueillir là aussi, comme je dis, des spectacles à tout moment. Il est évident que quand Johnny Hallyday est venu la première fois au Stade de France, c'est-à-dire après la Coupe du Monde, ben je crois que sa première représentation a été interrompue à cause de la pluie. Si ça avait été couvert.
C'est un petit peu dommage, là. Merci beaucoup, Émeric Zoublena, d'être venu nous parler de ces réalisations, de ces stades qui font rêver en France et à l'étranger. Nous avons pu passer en revue quelques réalisations, en tous les cas très variées. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc architecte et urbaniste, membre de l'Académie des Beaux-Arts.